Merci infiniment. Je suis sûr, cher Axel Kahn, qu'en écoutant vos deux grands témoins, vous n'avez aucune envie de choisir. Et qu'évidemment, vous vous dites qu'il faut soutenir les deux, et même largement plus. Alors, je ne sais pas si celui-ci marche, je vais vous laisser ça. L'annonce de service, c'est qu'à l'issue du discours d'Axel Kahn, il y a évidemment un cocktail qui vous attend pour prolonger les échanges. Peut-être d'abord un mot sur ce qu'ont dit les grands témoins, et puis votre conclusion.
En fait, je peux mélanger la conclusion à la réponse au propos des deux témoins. Les deux témoins ont un point commun, qui est d'ailleurs un point commun à la totalité du champ du handicap, d'avoir insisté sur ce point qui a été illustré au cours de cette séance extrêmement instructive, la notion selon laquelle il y a au moins deux genres de déterminants dans le handicap. Un déterminant qui est lié à la personne et d'autre part, un déterminant qui est lié à l'environnement que rencontre la personne, la situation de handicap. En réalité, il est peu de concepts qui renvoient aussi évidemment à la notion de destin que le concept de handicap. En effet, qu'est-ce que le destin ? Le destin ne peut être codé par quelque gène que ce soit, et le destin n'est jamais réductible aux propriétés intrinsèques de ce dont on envisage le destin. Le destin est la rencontre entre un être, on pourrait parler du destin d'un objet, une réalité matérielle qui a des propriétés, et l'environnement que cet objet matériel, que cet être rencontre. Agir sur le destin d'un être peut se faire en intervenant sur les propriétés, la médecine, les prothèses, la remédiation, tout ce qui mérite d'être mené, et peut être fait en intervenant sur l'environnement. Je prends souvent l'exemple dans le domaine de la génétique pour expliquer la différence qui existe entre un destin et un programme, qui est de dire que une voiture extrêmement fragile dont les parois sont de quelques millimètres, d'un millimètre d'épaisseur, ou bien un char d'assaut, s'il ne rencontre jamais aucun obstacle, ont le même destin. Et d'aller leur cours, de continuer à avancer. En revanche, évidemment, leurs réactions face aux obstacles sont considérablement différentes. Dans le propos d'Éric Molinier, il existe une difficulté tout à fait particulière de cet environnement qui est celui de l'extrême pauvreté, de l'exclusion. J'ai eu l'occasion récemment, et ça m'a beaucoup ému, d'écrire l'introduction d'un recueil de poèmes d'une personne sans domicile et qui connaissait tous les malheurs de cette vie-là. Et l'un de ses vers était « Comment savoir si demain sera ?»« Comment savoir si demain sera ?» Comment parler, lorsque des personnes se demandent même si demain sera, où le problème n'est pas du tout d'imaginer demain, après-demain, c'est de vivre au jour le jour, d'arriver à survivre. Comment pouvoir, dans ces conditions-là, parler de projet de vie, de mener sa vie ? Nous sommes en décalage complet. Et ce que traite dans son interpellation Éric Molinier, c'est cette notion un peu de poupée gigogne des handicaps qui s'ajoutent les uns aux autres, qui se compliquent les uns les autres. Bien évidemment, cette prise en compte de l'environnement, et en particulier de l'environnement extrême, de celui qui, même sans handicap constitutionnel, a extraordinairement de la difficulté à envisager son avenir, de telle sorte qu'il puisse imaginer son avenir et qu'il puisse l'imaginer malgré un handicap associé, fait partie de nos priorités. D'ailleurs, d'une certaine manière, nous le savons bien, l'extrême pauvreté est terriblement handicapante. Si l'on voulait donner une définition plus large du handicap, rien que cet environnement pour une personne qui est a priori sans lésion constitutionnelle, c'est un handicap considérable parmi les handicaps qui sont les pires. Et c'est un exemple de cette somme, en quelque sorte, le handicap constitutionnel, plus le vieillissement, plus l'obésité, plus la pauvreté, plus l'exclusion, plus le regard des autres. Quant à la deuxième interpellation, évidemment, elle nous met au cœur de l'interaction, puisque la personnalité de chacun, comme vous l'avez dit, ne peut concevoir qu'à travers ce reflet de la personnalité que les personnes voient dans le regard, dans le contact avec autrui. Ce dont vous avez parlé est une forme de déracinement, et il y a un lien entre les deux, qui est le déracinement de soi-même.
Absolument.
Tous les déracinements sont un handicap. On le sait avec les populations déracinées, un handicap considérable. Parfois, ce déracinement, c'est de sa propre personnalité. Il est très fréquent en réalité. C'est à la base de très nombreux handicaps psychiques. Je disais avec monsieur le président du comité scientifique et technique que c'est un problème tout à fait particulier. La schizophrénie est un type absolument caricatural de déracinement, de brisure réellement de l'esprit au sens étymologique du terme. Cette intervention pour rétablir le contact, pour rétablir l'unité, vaut en particulier pour toutes ces personnes qui, dans des conditions variées, connaissent ce type de déracinement, en particulier de leur personnalité antérieure, voire même de fragmentation de leur personnalité, et cela se voit effectivement après des traumatismes. En fait, plus que de lancer des programmes, ce que nous faisons à la FIRA pour l'instant, et je crois que nous tenons à nous y maintenir, à nous en tenir là, est d'indiquer les domaines dans lesquels nous aimerions avoir des projets de recherche, c'est-à-dire attirer l'attention des meilleures équipes sur un sujet auquel ils n'avaient pas forcément pensé, au caractère fondamental duquel ils n'avaient pas réfléchi, en leur disant « la FIRA aimerait en particulier soutenir des projets de recherche dans, eh bien, dans les domaines qui vont permettre systématiquement aux personnes ayant un handicap constitutionnel de ne pas le voir être aggravé par leur situation et va leur permettre néanmoins d'être les sujets et donc les acteurs de leur propre vie, voire même de la vie un peu décalée dans le futur, c'est-à-dire être apte à imaginer, à ébaucher un projet de vie. Nous indiquons dans notre appel d'offres que nous aimerions recevoir des projets de recherche sur le thème éducation et handicap. Évidemment, car lorsque le handicap crée en plus un handicap à l'accès au savoir, la totalité des limitations liées au handicap constitutionnel s'en trouve considérablement aggravée par le handicap social, affectif et professionnel qui s'ensuit. Nous demandons également qu'un effort particulier soit consenti sur l'accès au travail et plus particulièrement sur un domaine qui a moins bénéficié des progrès en ce domaine qui ont été accomplis, et nous le faisons avec l'ADAPT, l'un de nos partenaires, qui est accès au travail des personnes connaissant un handicap mental ou psychique. Des progrès très importants et, d'une certaine manière, c'est jamais suffisant. Mais des progrès considérables ont été faits pour améliorer l'accès au travail des personnes ayant un handicap moteur ou sensoriel. En revanche, le handicap mental est plus encore le handicap psychique pose aux employeurs des questions tout à fait particulières. Questions que dans leur fonction d'employeur, ils ne peuvent pas ne pas se poser. Et question vis-à-vis desquelles il manque d'éléments de réponse. La recherche doit les aider à préciser tout ce par quoi, en dehors du devoir de solidarité, l'emploi de ces personnes pourrait être aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Ce type de recherche nous semble absolument essentiel. Il existe, on l'a dit, un univers du handicap qu'il ne faut pas simplement comprendre par les personnes en situation de handicap, leur entourage, les associatifs, tous les intervenants, mais qu'il faut entendre comme un monde en tant que tel. Et dans ce monde qui est profondément modifié par la réalité du handicap, il existe un phénomène qui est redoutable, qui est une certaine épidémiologie du handicap, transmissibilité du handicap. Cela a été souligné, en particulier lorsque une attention suffisante n'est pas accordée à ce point. La situation dans laquelle les aidants se trouvent face aux situations des handicaps handicape considérablement les aidants. Il y a une vraie transmission du handicap des personnes qui portent le handicap constitutionnel aux aidants qui s'engagent de toutes leurs forces. Comment faire en sorte que être aidant soit compatible avec mener sa vie professionnelle, ne pas être barré dans sa progression salariale et hiérarchique, arriver à des conditions de retraite qui ne se ressentiront pas négativement de la générosité dont on a témoigné. Il y a une dimension organisationnelle, sociale, économique. C'est de la vraie recherche. Nous désirons recevoir des projets en ce domaine-là. La précarité est maintenant l'un des domaines, suite à nos discussions, sur lequel nous attirons l'attention des contractants. Et enfin, le vieillissement, bien entendu. Je voudrais terminer en remerciant tous les intervenants de cette soirée, je crois d'une très grande qualité, extrêmement instructive. Je voudrais les remercier, fort de ma conviction qu'ils sont parvenus à vous convaincre, si vous ne l'étiez pas déjà, que quelle que soit la réalité, la difficulté de la situation économique, du pessimisme ambiant, de la restriction des budgets publics et privés, ce ne sont pas les gens qui sont déjà face aux plus grandes difficultés que l'on peut envisager être les victimes de ces restrictions. Bien évidemment, pour chacun d'entre nous, il faudra que nous consentions à des modifications de notre type de vie, de la réalisation de certains de nos projets. En revanche, il est dans notre société des personnes qui ont déjà tous les jours à payer les conséquences de la malchance et d'une société qui ne leur donne pas toute leur chance. Il y a, vous savez, dans le corps humain, des mécanismes tout à fait extraordinaires qui font que, quand on est en grande situation de détresse, lorsque la tension diminue, alors on concentre l'énergie vitale qui reste pour préserver les organes essentiels. Dans notre société, les personnes qui ont déjà à vivre le handicap, c'est pour moi l'équivalent de ces organes essentiels. Et le flux qui leur permet imparfaitement, insuffisamment, de vivre et de pouvoir arrêter des projets, ce flux-là ne doit en aucun cas être affecté par ce à quoi nous aurons à faire face les uns et les autres. Et ne pas arrêter le flux, c'est naturellement de tout ce que l'on fait, mais ne pas non plus stopper le progrès, c'est-à-dire ne pas céder à la facilité, considérant qu'il faut maintenant cesser de faire de la recherche tellement on a de mal à gérer simplement ce qui existe. C'est pas vrai. C'est une injure faite à l'avenir et à l'avenir de personnes qui ont plus besoin de croire en l'avenir encore que nous. Grâce à vous, on préservera cela parce que cela est l'essentiel. Je vous remercie.